Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
Le club de la presse numérique, comme chaque dimanche, pour terminer Soft Power, on parle ce soir de la politique américaine en matière d'intelligence artificielle, telle que annoncée, promise et assez peu financée, à vrai dire, par Donald Trump cette semaine. Alors lundi, le président américain a signé un décret, un executive order, on dit en anglais, intitulé American AI Initiative. En gros, un décret dans lequel il identifie 5 axes stratégiques pour développer l'intelligence artificielle aux États-Unis. Il demande aux agences, aux chercheurs, au monde universitaire et aux industriels de faire de cette intelligence artificielle une priorité, évidemment, en ligne de mire, on peut dire, la Chine. La prise de parole du président américain n'annonce rien de très précis, même l'allocation de fonds supplémentaires, mais elle atteste d'une volonté, disons, stratégique de se focaliser sur le développement de cette intelligence artificielle, un secteur qui lui apparaît comme à la fois très concurrentiel et donc stratégique. On en parle ce soir avec Emmanuel Paquet, qui est resté avec nous, et Amaël Guiton de Libération, qui nous a rejoint. Pour commencer, Amaël, 5 points, dans la stratégie de Donald Trump.
Oui, alors effectivement, il y a 5 points clés qui restent, il faut le souligner, quand même assez vagues jusqu'ici. Il y a le fait de faire de l'intelligence artificielle un investissement prioritaire des agences fédérales américaines. Il y a la constitution de ressources, à la fois en termes de données, en termes d'algorithmes, en termes d'infrastructures, de cloud, qui soient mises à disposition des chercheurs en intelligence artificielle. Il y a la question d'élaborer des standards. Alors je cite, pour des systèmes d'IA, donc intelligence artificielle, qui soient fiables, robustes, dignes de confiance, sûrs et interopérables. Il y a la question de la formation des agents gouvernementaux aussi. Manifestement, il y a en ligne de mire l'idée de mettre en place des bourses, des programmes de formation, etc. Et puis, il y a aussi la question de la collaboration internationale, ce qui est assez complexe, puisque là, on voit bien que, comme c'était souligné, il s'agit assez clairement de faire pièce à la stratégie chinoise. Quand on parle de collaboration internationale, il y a toujours la question de jusqu'à quel point on garde son avantage comparatif, entre guillemets. Et puis, effectivement, ce qui a été quand même noté par tout un tas d'observateurs, c'est que, pour le moment, ça fait un peu catalogue de bonnes intentions, si on peut dire. En revanche, il n'y a absolument aucun chiffre qui est donné, à la différence de ce qui avait pu être fait par la Chine ou même par la France plus récemment.
Amaël, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, l'intelligence artificielle, ça n'a rien de nouveau. Au fond, c'est tout simplement des big data, des données de masse qui sont réorganisées et qui permettent de faire fonctionner tout un tas de choses. Quels sont les développements qu'on attend dans ce secteur pour les années à venir?
Alors, l'IA, en réalité, c'est même plus large que ça. C'est-à-dire que si on repart vraiment au tout début, dans les années, 50, 60, je pense, et qu'on reprend la définition à l'époque de Marvin Minsky, qui était donc un
considéré
comme un des pères de l'intelligence artificielle. L'idée, c'était de construire des programmes informatiques qui, s'adonnent à des tâches accomplies par des humains. Donc, on voit bien à quel point c'est large, en réalité. Et quand on regarde, d'ailleurs, ce qu'étaient les départements d'intelligence artificielle dans les grandes universités américaines, je pense au MIT, par exemple, ou aux universités californiennes, en fait, c'était les départements d'informatique. Après, l'expression elle-même a pas mal évolué, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, on fait en réalité beaucoup référence à une branche précise de l'intelligence artificielle, celle qu'on appelle l'apprentissage profond, c'est-à-dire des algorithmes entre guillemets auto-apprenants, même si j'aime pas forcément ce terme, ou en tout cas qui s'entraînent à partir de très 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 vastes bases de données. Donc c'est d'ailleurs pour ça que dans le débat public le plus souvent, la question de l'intelligence artificielle est très très liée à celle du big data, ce qui explique par ailleurs pourquoi ce sont de grandes entreprises de la Silicon Valley qui ont aussi une longueur d'avance dans ce domaine-là.
Avec les serveurs,
je pense typiquement
à Amazon, Google.
Amazon, Google, Facebook, parce qu'ils ont en fait à disposition pour entraîner leurs algorithmes énormément de données, et énormément de données personnelles, ce qui par ailleurs pose d'autres problèmes en matière de protection de la vie privée, mais ce qui explique aussi pourquoi la Chine développe à ce point l'IA, parce que justement, on a une population très vaste, on a de plus en plus de données, et pour le coup, on a un cadre de la protection des données personnelles qui est quand même extraordinairement restreint.
Emmanuel Paquet, sur cette question, l'avenir, au fond, notre avenir dépend, vous croyez, de l'intelligence artificielle ?
C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, c'est des domaines d'application qui sont extrêmement larges. Donc ça peut aller aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs dans le degré présidentiel, ça peut toucher aussi bien le domaine de découverte, de la découverte scientifique, que des métiers. Dans les métiers, ça peut être les domaines de la santé, ça peut être les domaines du spatial, ça peut être le domaine de la défense, de la sécurité intérieure.
La voiture électronique, la voiture automatique.
La voiture autonome, effectivement, pour qu'elle puisse reconnaître, par exemple, qu'un passant est en train de traverser la route. Ça peut être la reconnaissance faciale, donc ça peut aider effectivement pour la sécurité nationale dans un pays, pour la gestion aux frontières, par exemple au niveau des aéroports nationaux. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, en fait, chacun l'utilise sans le savoir, en fait. Hein, il est en grande partie, par exemple, dans les systèmes de reconnaissance vocaux, comme Siri dans l'iPhone, comme OK Google, par exemple, dans les téléphones Google. Donc, il est déjà présent. Là, on est sur la reconnaissance de langage, de parole. Il y a aussi la reconnaissance faciale qui est arrivée dans les téléphones. Donc, là, on voit les premières applications concrètes. Et puis, aujourd'hui, les étudiants aussi peuvent le voir tous les jours, puisque il y a une partie, alors c'est de l'algorithmie, c'est pas forcément l'intelligence artificielle, mais le fait que vous soyez orienté en fonction de votre profil d'étudiant dans telle ou telle université, ça repose en partie sur un algorithme, pas forcément intelligent pour le coup, mais un algorithme qui peut vous classer et vous envoyer dans une université.
Quel peut être, selon vous, peut-être Amal Guiton, le rôle de l'État au fond? Est-ce que l'État a un rôle dans le développement de l'intelligence artificielle? C'est au fond ce que croit Donald Trump, au moins à travers ses annonces, et aussi ce que croit la Chine, parce que elle a décidé, c'est une décision présidentielle, gouvernementale, lourde, de l'exécutif, de se lancer et d'agir dans l'intelligence artificielle. Mais il y a aussi une autre école qui pense que c'est au fond le marché qui va le faire tout seul et le gouvernement est assez incapable de faire ça. Quel est ce débat?
Alors, le cas de la Chine est quand même assez particulier parce que pour le coup, il y a quand même une intrication entre l'appareil d'État et ces grandes entreprises qui effectivement ont beaucoup de données, l'équivalent des GAFA, mais côté chinois, je pense, je sais pas mal, des acteurs comme Baidu, Tencent, etc.
Alibaba, oui.
Donc effectivement, dans leur cosmogonie, le fait d'avoir une stratégie nationale pour l'IA, c'est cohérent, hein, ça, il n'y a pas de doute. Le cas des États-Unis est un peu particulier parce que on peut pas s'empêcher de penser d'ailleurs que si ça n'est pas chiffré, c'est aussi parce qu'il y a l'idée que le privé aussi va être très présent dans l'histoire. Alors, de toute façon, ça paraît jamais aberrant d'avoir une stratégie nationale pour l'intelligence artificielle, ne serait-ce que parce qu'il faut à un moment donné aussi mettre des garde-fous. On voit bien aussi la question que ça pose en termes éthiques, en termes de protection des données personnelles, etc. Et c'est des débats qui ont eu lieu notamment en France à l'initiative de la CNIL, hein, la question sur l'éthique des algorithmes. Tout ça doit évidemment faire partie du débat public et les pouvoirs publics doivent s'inscrire dans ce cadre-là. Alors après, c'est aux États-Unis, de toute façon, moi j'ai quand même tendance à penser qu'on peut pas penser, comprendre le développement de la Silicon Valley sans le rôle des agences fédérales elles-mêmes. Moi, j'ai beaucoup de mal à voir l'histoire de la Silicon Valley sans la DARPA, parce que historiquement, il y a toujours eu effectivement des relations.
C'est-à-dire l'agence de recherche de l'armée américaine.
Et il y a toujours eu des relations en réalité beaucoup plus étroites entre les entreprises de la Silicon Valley et l'administration américaine que ce qu'on pourrait en croire dans la mythologie
en général, ouais,
un peu de la Silicon Valley, etc.
La DARPA qui justement vient d'annoncer en décembre investir 2 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle très précisément. Emmanuel Paquette, est-ce que c'est au fond une réponse aux Chinois de la part de Donald Trump?
Certainement, parce que d'une part on voit bien que la mention même du décret présidentiel qui est pour maintenir le leadership des États-Unis en matière de leader d'intelligence artificielle, ça veut dire que ce leadership aujourd'hui est menacé. Et s'il est bien menacé par un pays, c'est bien la Chine. Donc on voit bien que c'est en réaction par rapport aux annonces chinoises et aux montants d'investissements chinois qui sont mis sur la table. En revanche, il y a quand même un point important que la Chine met en œuvre sans le dire, et les États-Unis le font, mais en le disant pour le coup, qui est l'open data, parce que comme vous le disiez précédemment, une intelligence artificielle se nourrit de données et apprend en fonction des données. Alors certes, aujourd'hui, les Google, Apple, Facebook, etc., ont accès à énormément de données de notre vie privée, puisque c'est nous-mêmes qui le leur donnons. En revanche, il y a tout un pan de données auxquelles ils n'ont absolument pas accès et dans lesquelles l'État, lui, a accès. C'est-à-dire
que c'est
vos données de santé, par exemple. Aujourd'hui, les données de santé, Google, Apple et les autres n'y ont pas accès. Heureusement, voilà. Les données aussi, en fait, tout ce qui touche au régalien, en fait, c'est-à-dire vos impôts. Ça peut être la santé, ça peut être les impôts, ça peut être tout ce qui est du domaine de la sécurité. Si vous avez un casier judiciaire, hein, Google, Apple, Facebook ne le savent pas. Si vous ouvrez demain ces données, C'est ce que veut faire le gouvernement américain en partie hein, sur l'open data. Il faut aussi mettre en face un contrôle de ces données. Parce que sinon, les débordements peuvent aller très très vite en matière d'exploitation de données ouvertes, de l'intelligence artificielle, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité et dans différents domaines. Donc c'est là où en fait on est en train de franchir un pas. C'est-à-dire autant la Chine le fait sans nécessairement le dire ouvertement, autant les États-Unis sont en train de le faire. Et comme c'est une démocratie, il va bien falloir...
Que ça passe devant le Congrès, que ce soit discuté
publiquement. Exactement, et que ces usages soient surveillés de près.
Donc là, les États-Unis, c'est aussi sa force et sa faiblesse à la fois de se corriger, mais de devoir toujours se justifier. Amal Guiton, justement, quelle place pour l'éthique et la protection des données dans ce plan ? Est-ce qu'il va faire, Donald Trump, de la protection des données sa priorité ?
Alors là, pour le moment, ça paraît quand même très compliqué à dire parce que c'est extraordinairement vague sur le sujet. Je crois que j'ai lu effectivement qu'il était question de rendre tout ça conforme au respect des valeurs et des intérêts américains. Mais pour le moment, ça paraît quand même très 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 large. Ça va dépendre aussi de la manière dont le débat évolue aux États-Unis parce que pour le coup, on a bien vu après le fameux scandale Cambridge Analytica qui a touché Facebook. Donc pour mémoire, hein, cette entreprise de marketing politique et entre guillemets qui avait exploité des données personnelles d'utilisateurs de Facebook à des fins de ciblage pro-Trump et pro-Brexit, ça a créé un véritable débat aux États-Unis sur la protection des données personnelles, y compris avec des parlementaires américains qui, et c'était quand même assez inédit, tout à coup regardaient de près ce qui se faisait en Europe, notamment le fameux règlement européen sur la protection des données. Donc il faut voir aussi comment tout ça va évoluer de l'autre côté de l'Atlantique. D'une certaine manière, côté européen, on a déjà pas mal de garde-fous, hein, parce que alors notamment sur tout ce dont parlait Emmanuel, les données dites sensibles, hein, comme les données de santé, parce que c'est vrai que les applications de l'intelligence artificielle en matière de santé, c'est absolument fascinant, hein, ce qui peut se faire, c'est-à-dire qu'on peut faire de la détection précoce de certaines pathologies, on peut faire une médecine beaucoup plus proche en réalité du patient, parce que à partir de tout un tas de critères, on va pouvoir par exemple évaluer le taux de récidive. Donc on est dans des applications qui effectivement ouvrent un champ des possibles qui est assez gigantesque. Alors après, effectivement, c'est toute la question et ces données de santé, à qui on les ouvre, comment, quelles données à quelles données laisse-t-on les chercheurs accéder, par exemple. Tout ça, on va dire que moi j'ai le sentiment en tout cas qu'en France et en Europe, on a un cadre qui est plutôt protecteur par rapport à ça, et je pense qu'aux États-Unis, il est probablement plus lâche à l'heure actuelle. Ouais.
Emmanuel Paquette, on parle de la protection des données, au fond des questions d'éthique, mais est-ce que les Français ne seraient pas très bons sur la protection des données, mais sans avoir l'intelligence artificielle ? On en est où, nous, par rapport à ces immenses programmes lancés par la Chine, mais aussi par les États-Unis, donc depuis cette annonce de Donald Trump, c'est pas nouveau, les États-Unis sont sur ce secteur depuis déjà longtemps, est-ce qu'au fond la France va pas protéger ses données, mais ne pas être leader de l'intelligence artificielle ?
Ça va être compliqué, parce que si elle est prise entre d'un côté les États-Unis qui sont en train d'ouvrir ces données justement pour nourrir l'écosystème de leurs géants nationaux, et de l'autre côté la Chine, ça va être compliqué en Europe de faire de la résistance pendant très 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 longtemps. Donc est-ce qu'il faut créer ses propres géants entre guillemets du numérique qui peuvent exploiter l'intelligence artificielle? Et là, on en vient à la souveraineté numérique de l'Europe. La réponse est vraisemblablement oui.
Faut-il les avoir ?
Alors déjà, oui. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est un nouveau champ entre guillemets. Donc l'Europe peut rattraper assez vite peut-être son retard. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. L'autre côté positif, c'est qu'il se trouve qu'on a quand même des très bons chercheurs, notamment en France, en intelligence artificielle. Par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les pères fondateurs de ce qu'on appelle le deep learning, donc l'apprentissage profond, qui est la nouvelle mode aujourd'hui hein, de l'intelligence artificielle. Parmi eux, il y a Yann Lequin, qui est aujourd'hui le responsable des laboratoires chez Facebook à New York. C'est un Français, même s'il travaille chez Facebook. Il y a Yoshua Bengio, par exemple, qui est aujourd'hui un Canadien, mais d'origine marocaine et qui a fait ses études en France, qui travaille à Montréal. Et puis, il y a le troisième père fondateur, qui s'appelle Geoffrey Hinton, qui lui travaille chez Google dans l'intelligence artificielle. Donc, on voit sur 2 sur 3, 2 travaillent dans des grands groupes américains, le troisième dans une université à Montréal. Donc, effectivement, on voit quand même qu'il y a une base importante en Europe qui peut encore aider. Donc, ça, c'est le point positif. L'autre, et il faut savoir aussi qu'en Chine comme aux États-Unis, les géants de l'internet veulent participer à ça. Jeff Bezos a fait un discours récemment. Hein, il a dit devant tout le monde, en plus pour répondre à ce que ses salariés disaient, c'est-à-dire ne pas participer à des programmes, notamment de sécurité nationale en matière d'intelligence artificielle. Il a dit si les grandes entreprises de la technologie doivent tourner le dos au département américain de la défense, le pays va être en difficulté. Donc Jeff Bezos pousse à ce que la majorité des entreprises de la high-tech américaine participent notamment à l'effort de guerre militaire et à l'effort sécuritaire. Donc il est nécessaire aussi qu'en Europe, des choses se fassent.
Pour terminer brièvement, Amel Guiton.
Non mais ça pose une vraie question ce que disait Emmanuel, parce qu'aujourd'hui effectivement c'est le deep learning, hein, l'apprentissage profond, donc effectivement des processus qui s'appuient sur de très 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 vastes bases de données qui donnent le là de la recherche en intelligence artificielle. Mais c'est pas forcément censé être, enfin il n'y a pas de raison que ça reste le cas forcément pendant 10, 15, 20 ans. Il y a aussi d'autres disciplines et par ailleurs peut-être que la France gagnerait, et l'Europe de manière générale gagnerait à s'intéresser à ces autres discipline, pour le coup, qui ne repose pas forcément sur de gigantesques bases de données. Et puis, bon, peut-être signaler qu'effectivement, aux États-Unis, tout ça fait débat. On se souvient que chez Google, il y a eu énormément de débats, justement, par rapport à un programme de recherche
signé avec l'armée américaine,
qui associait le Pentagone sur de la reconnaissance dans des vidéos. Et beaucoup de salariés de Google jugeaient que ça risquait, en fait, d'être utilisé par les drones militaires.
Et
que ça leur posait de vraies questions, ouais.
Merci infiniment à tous les deux, Emmanuel Paquette de L'Express, Amel Guiton de Libération. On en reste là pour ce soir. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur Twitter, moquer Soft Power, et vous abonner au podcast de Soft Power sur notre site France Culture, sur iTunes, ainsi que sur l'application podcast de votre smartphone Soft Power.